Le 8 décembre 2024, l'écrivain économique Bryce Hoffman a écrit ceci sur le site web du magazine Forbes. Il a déclaré « L'effondrement soudain du régime despotique de Bachar el-Assad en Syrie ce week-end met en évidence l'interconnexion d'un nombre croissant de conflits mondiaux, révélant une dure réalité à laquelle la plupart d'entre nous préféraient ne pas penser trop profondément. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Les chefs d'entreprise doivent en prendre conscience et commencer à planifier en conséquence. La guerre mondiale a-t-elle commencé? Ou, pour le dire en termes prophétiques, le cheval roux d'Apocalypse 6 est-il déjà en marche? La Bible contient une prophétie très précise décrivant l'intensification de la guerre dans le monde. Et il est parfois difficile de savoir exactement à quel moment elle se produira. Regardons cette prophétie dans Apocalypse 6. Apocalypse chapitre 6, verset 3. Apocalypse 6, versets 3 et 4. Et au verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Voici un peu d'histoire. Il s'agit du deuxième des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Les quatre cavaliers sont même entrés dans notre culture populaire. Vous entendez ce terme de temps en temps. En 1924, je crois que quatre des joueurs de l'équipe de football de Notre-Dame étaient appelés les quatre cavaliers. Mais nous ne parlons pas ici de ces quatre cavaliers. Ce sont les quatre cavaliers prophétiques dont nous parlons, qui correspondent aux quatre premiers sceaux d'Apocalypse 6. Il n'est pas difficile de discerner que l'apparition de ce cavalier symbolise une période d'horrible souffrance et de guerre, où les gens s'entretuent et où la paix est enlevée de la terre, c'est ce que nous venons de lire. La question est donc de savoir si ce chevalier est déjà en selle. Si vous regardez en ligne, vous connaissez cette grande source d'information qu'est Google. Vous obtiendrez des réponses très différentes. Un large éventail de réponses. Certains pensent que le cheval roux a déjà commencé à courir. Même dans l'Église, certains ont pensé au fil des ans que la course du cheval roux, ainsi que celle des autres cavaliers, augmentait progressivement. D'abord au pas, puis au trot, puis au galop, jusqu'à la fin des temps. Sans l'examiner en profondeur, il suffit d'un simple coup d'œil pour comprendre pourquoi certains pensent ainsi. Après tout, il suffit de regarder ce qui s'est passé il y a un peu plus de 100 ans. Le monde a souffert de la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres. Du moins, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque, la Première Guerre mondiale. Elle a coûté la vie à 15 à 20 millions de personnes, soldats et civils. Puis, une génération plus tard, la Seconde Guerre mondiale a été encore plus destructrice, faisant de 70 à 80 millions de victimes supplémentaires. Cela ressemble un peu au cheval roux, n'est-ce pas? Une guerre mondiale, deux fois en un siècle? Il ne fait aucun doute que le 20e siècle à quelque chose de différent, n'est-ce pas? Ce n'est qu'au cours des 80 dernières années que nous avons eu la capacité de mettre fin à toute vie sur cette planète. Cela crée certainement les conditions que Jésus décrit dans Matthieu 24, verset 22. Je vais simplement le citer parce que vous connaissez le passage. Il dit, verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Cela montre bien que nous sommes à la fin des temps. que nous avons la capacité aujourd'hui, que nous sommes très proches du retour du Christ, mais cela signifie-t-il que le cheval roux court déjà? C'est une bonne question. Essayons aujourd'hui de réduire cette chronologie dans le temps que nous disposons pour le sermon, et, plus important encore, demandons-nous ce que nous devrions faire à ce sujet. Que devrions-nous faire? Si vous voulez un titre, il n'est pas difficile à deviner, c'est le cheval roux de l'Apocalypse. Le cheval roux de l'Apocalypse. Pour commencer l'examen de ce cheval roux, nous devons revenir au cheval blanc. Vous êtes déjà dans Apocalypse 6, revenons au verset 1. Commençons au verset 1 d'Apocalypse 6. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » M. Wallace Smith a prononcé un sermon il y a quelques mois. Vous pouvez le trouver sur le site Internet de l'Église, edv.org, intitulé « Voici un cheval blanc ». Mon but n'est pas de redonner son sermon. En fait, le sermon qu'il a donné est en quelque sorte un tremplin pour ce dont nous parlons aujourd'hui. Mais vous pouvez consulter ce sermon sur le site Web. En résumé, il explique que le cheval blanc et son cavalier symboliseront une contrefaçon du christianisme militant, cherchant à faire miroiter ses tromperies à un monde sans méfiance qui, à cette époque, sera conquis par la force et la cruauté. Après le cavalier au cheval blanc, apparaît le cheval roux dont nous parlons. Ensuite, le troisième sceau s'ouvre avec un cheval noir, déclenchant une grande famine et une pénurie de nourriture. Finalement, le quatrième sceau révèle un cheval pâle. En fait, le mot signifie « vert » ou « verdâtre ». Il s'agit de la maladie, de la mort et de la destruction d'un quart de la population de la Terre. Il est donc clair que la Bible annonce des temps terrifiants à travers ses quatre sceaux et ses quatre chevaux. Remarquez ce que M. O'Gwin explique dans la brochure « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Il dit ceci en page 24. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse représentent une des images les plus connues du livre de l'Apocalypse. Beaucoup de gens en ont entendu parler, mais très peu savent réellement ce qu'ils représentent. Cependant, le Christ est le révélateur. Pour comprendre ces symboles, nous devons donc trouver dans les Écritures l'endroit où le Christ explique clairement ces événements. Cet endroit existe-t-il? Oui, absolument. Il s'agit de la célèbre réponse du Christ, quand les disciples lui demandèrent quel serait le signe de son avènement et de la fin du monde, Matthieu 24, versets 3 à 31. Ainsi, nous comprenons la signification des quatre cavaliers par Matthieu 24, ainsi que le deuxième cavalier, le cheval roux, dont nous parlons aujourd'hui. M. O'Gwin poursuit en disant, dans Matthieu 24, le Christ décrit un scénario qui commence par l'arrivée de faux prophètes, puis de guerres, des famines, des épidémies, des tribulations et des grands signes célestes. Le Christ décrivait les événements précédant son retour depuis les cieux. Le parallèle avec Apocalypse 6 est remarquablement clair. Il y a donc un lien étroit. Mais cela peut parfois nous amener à nous poser des questions. Les sceaux sont-ils déjà ouverts? Sont-ils ouverts maintenant? Parce que nous voyons des choses qui se sont déjà produites. Revenons à ce qu'écrit M. O'Gwin. Depuis que Jésus-Christ a prononcé sa parole sur le mont des Oliviers, l'histoire montre que depuis 2000 ans, il y a eu des faux prophètes, des guerres, des épidémies, des famines et des persécutions religieuses. Quelle différence y a-t-il avec les événements qui se produiront après l'ouverture des sceaux? Apocalypse 6 révèle qu'au temps de la fin, l'impact de ces fléaux pour l'humanité sera plus important que jamais auparavant. Ce que nous voyons, donc, c'est que Matthieu 24, versets 1 à 7, montre le modèle général que le monde a connu au cours des 2000 dernières années. Il lui donne une compréhension des sceaux, mais les sceaux eux-mêmes parlent d'événements qui se produiront exclusivement à la fin des temps. Il s'agit là d'une distinction importante entre les deux. Poursuivons la lecture de M. O'Gwin. Bien que ce système de la fausse chrétienté ait commencé au premier siècle, l'homme impie des temps de la fin apparaîtra seulement quand son temps sera venu. 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7. Lorsque ce dernier faux prophète paraîtra sur la scène mondiale, les véritables chrétiens seront capables de connaître exactement où nous en serons dans le déroulement de la prophétie. Le premier sceau aura été ouvert et son accomplissement pour les temps de la fin se sera réalisé. L'ouverture des sceaux suivants ne tardera pas. Matthieu 24, versets 1 à 7 montre le schéma des 2000 ans d'histoire de l'humanité, tandis qu'Apocalypse 6 montre ce qui se passera juste avant le retour du Christ. Une distinction importante entre les deux. Sur cette toile de fond, concentrons-nous maintenant sur deux clés qui permettent d'établir le calendrier de l'apparition du cheval roux. Première clé. Première clé. L'apparition du cheval roux suit l'apparition du cheval blanc. C'est très compliqué, je sais. Première clé. L'apparition du cheval roux suit l'apparition du cheval blanc. Parfois, l'évidence peut être négligée. Et comme M. Ames avait l'habitude de le dire, ne négligez pas l'évidence. Si nous essayons de discerner le moment où le cheval roux commencera sa course, et si les sceaux sont ouverts successivement, ce qui est le cas, il est logique que si le premier sceau n'est pas encore ouvert, le second ne l'est certainement pas encore. Je pense que c'est la raison pour laquelle le sermon de M. Smith est si important. Voici un cheval blanc. Si vous l'avez manqué ou si vous ne l'avez pas entendu, il est bon de le revoir, de le vérifier et de l'écouter. Le cheval blanc est l'événement qui déclenche les autres sceaux en succession rapide. Avons-nous déjà vu le cheval blanc apparaître? Lorsque nous nous penchons sur l'histoire du Moyen Âge, nous entendons parler de l'Église catholique, de conversion forcée, de l'Inquisition espagnole, des croisades visant à anéantir les Vaudois. Nous avons entendu parler de nombreuses persécutions religieuses aux mains de ce faux système chrétien, imposé par l'épée. Nous l'appelons parfois le Saint-Empire romain, mais ces tyrans ont disparu, n'est-ce pas? Avec la montée de l'Israël moderne au cours des derniers siècles, nous en parlons beaucoup, la défaite anglaise de l'armada espagnole dans les années 1580, la montée de la Grande-Bretagne et de l'Amérique au début des années 1800, ce sont essentiellement les fils de Joseph qui ont donné le ton au cours des derniers siècles. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui pratiquer notre religion en toute liberté. C'est pourquoi nous avons la même possibilité de pratiquer notre assemblée, comme nous l'avons entendu dans la sermonnette tout à l'heure, sans risque de nos jours. Nous voyons des lois garantissant la liberté d'expression, la liberté de religion et la liberté de réunion, en particulier parce qu'elles nous ont donné l'occasion de faire l'œuvre au cours des dernières décennies. Donc, non. Nous ne voyons pas une religion chrétienne contrefaite brandir une épée aujourd'hui pour imposer sa marque de christianisme. Et donc non, le cheval roux n'est pas en marche. Pourtant, nous pouvons voir ce faux christianisme à l'horizon. Voici un article sur le pontife qui vise une communion conjointe avec l'Orient. Le titre d'un article paru dans l'édition du 30 novembre 2024 du National Catholic Register est un chemin vers l'unité. Le pape François propose une célébration commune catholique orthodoxe de l'anniversaire de Nicée. Le pape François a proposé de célébrer le 1700e anniversaire du premier concile de Nicée avec les dirigeants orthodoxes dans une lettre personnelle adressée au patriarche écuménique Bartholomée de Constantinople. Saviez-vous que cette année est le 1700e anniversaire du concile de Nicée? Et voici ce qu'il propose. L'Église catholique a toujours eu pour objectif de parvenir à l'unité religieuse avec les protestants, les luthériens et même l'Église orthodoxe. Petit à petit, ils recollent les morceaux. Petit à petit, ils avancent. Nous avons également assisté, lors des élections américaines, à l'élection d'un vice-président catholique. Mais il n'est pas seulement catholique. Il est connu pour être favorable à une forme de catholicisme appelée catholique post-libéraux. Qu'est-ce que cela signifie? Un article paru dans le National Catholic Register du 24 juillet 2024 disait ceci. J.D. Vance se décrit lui-même comme un membre de la droite post-libérale, un mouvement politique naissant qui renverse le scénario conservateur conventionnel et met l'accent sur le bien de la communauté plutôt que sur la liberté individuelle. Cette approche controversée, à la fois inspirée par l'Église catholique et contestée au sein de celle-ci, consiste notamment à mobiliser le pouvoir de l'État pour atteindre ses objectifs, ce qui constitue une autre rupture par rapport au mode opérationnel habituel de la droite américaine. Exploiter le pouvoir de l'État pour atteindre ses objectifs. Voilà qui semble intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers quand on parle de l'Église catholique, de ce système? Encore une fois, ne vous attendez pas à ce que J.D. Vance soit nécessairement le faux prophète, juste le fait que le vent souffle. Le vent souffle. Un autre article fait écho à la même chose. Il est tiré de The Atlantic et s'intitule « L'armée de Dieu sort de l'ombre », 9 janvier 2025. Et il y dit ceci. Un changement est en cours, un changement que les spécialistes suivent depuis des années et qui est devenu étonnamment visible avec la montée du trompisme. À l'heure actuelle, des dizaines de millions de croyants, environ 40% des chrétiens américains, y compris les catholiques, selon une enquête récente de l'Université d'Anderson, adhèrent à un mouvement séduisant et charismatique qui n'a que faire du pluralisme religieux, des droits individuels, ou de la démocratie constitutionnelle. Il est mystique, émotionnel et à sa manière sauvagement utopique. Il est transnational, multiracial et résolument politique. Les premiers dirigeants l'appellent la Nouvelle Réforme Apostolique, NRA. Les idées centrales comprennent la croyance que Dieu parle par l'intermédiaire d'apôtres et de prophètes modernes, que les forces démoniaques peuvent contrôler non seulement des individus, mais des territoires et des institutions entières, que l'Église n'est pas tant un lieu qu'une armée active de Dieu, avec une mission sacrée de rééduquer la terre pour le royaume alors que l'humanité s'enfonce de plus en plus dans la fin des temps. Il est clair que beaucoup de choses ne vont pas dans le bon sens ici. Mais il s'agit d'une tendance, et il s'agit d'une tendance. Qu'il s'agisse du nationalisme chrétien, des catholiques post-libéraux ou de la nouvelle réforme apostolique, il s'agit d'un animal différent. Avec des chrétiens traditionnels plus actifs, plus agressifs dans les institutions de la société et qui ne s'en cachent pas. Lorsque nous regarderons un jour l'histoire, il se pourrait que les LGBTQ et l'agenda woke aient été le catalyseur d'un mouvement extrêmement agressif et politiquement actif. Qui sait où cela pourrait nous mener? En fin de compte, à un leader charismatique dont beaucoup pensent qu'il sera le seul à protéger les chrétiens de l'ultra-gauche. Qui sait? Il ne reste plus qu'à attendre et à voir, mais il faut que quelque chose déclenche la crédibilité et l'acceptation sociale d'une fausse église militante. C'est ce que nous surveillons. D'une manière ou d'une autre, le cheval blanc n'est pas encore entré en scène. nous ne le voyons pas encore arriver. Nous avons encore une grande liberté pour adorer Dieu. Par conséquent, si le cheval blanc n'est pas apparu, le cheval roux ne l'est pas non plus. Mais il y a un autre élément qu'il est peut-être facile de négliger. Non seulement le cheval roux doit attendre le cheval blanc, pour ainsi dire, mais il y a peut-être un autre aspect de sa synchronisation que nous pouvons tirer des Écritures. Comme l'explique M. O'Gwin, les sceaux s'ouvrent séquentiellement, l'un après l'autre. Une fois ouverts, ils restent ouverts jusqu'au retour de Christ, et les conséquences et les effets s'ajoutent les uns aux autres. Faux christianisme, guerre, famine, maladie et mort. Et maintenant, nous passons à Apocalypse 6, versets 9 à 11, et nous voyons le cinquième sceau. Le cinquième sceau. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous savons qu'il s'agit du cinquième sceau, le martyr des saints. C'est la grande tribulation. La grande tribulation commence avec l'ouverture du cinquième sceau. Si vous voulez une référence, Daniel 7, verset 25. Nous dit que Daniel 7, verset 25, les saints sont livrés entre ses mains, c'est-à-dire ce système qui impose un faux christianisme, livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le martyr dont il est question est donc clairement d'une durée de 3 ans et demi. Il correspond à toute la durée de la grande tribulation. L'ouverture du cinquième sceau correspond donc à l'ouverture de la grande tribulation. Que pouvons-nous déduire de tout cela? Utilisons un peu de logique. Si les sceaux s'ouvrent séquentiellement, dans l'ordre du temps, cela signifie que les 4 sceaux précédents, les 4 cavaliers, s'ouvrent, chevauchent et apparaissent avant le début de la grande tribulation. N'est-ce pas assez évident? Cela l'est vraiment quand on le regarde, quand on le fixe et quand on l'examine. Mais il est parfois facile d'avoir une idée floue du moment où ces choses se produisent. Savoir que les sceaux s'ouvrent dans un ordre successif est vraiment crucial. Cela signifie que tout ce dont nous avons parlé, la tromperie religieuse, les guerres, la famine, les maladies, se produit ou commence à se produire avant la grande tribulation. Revenons à la brochure de M. O'Gwin. Il dit à la page 29, Jésus nous a mis en garde contre la grande tribulation, une époque unique dans l'histoire. Matthieu 24, versets 21-22. La grande tribulation commencera peu après l'abomination de la désolation et elle sera la conséquence de l'accomplissement rapide des 5 premiers sceaux au temps de la fin. Cela nous amène à notre deuxième clé pour comprendre le calendrier du cheval roux. Deuxième clé, l'apparition du cheval roux précède le début de la grande tribulation. Deuxième clé, l'apparition du cheval roux précède le début de la grande tribulation. Pourquoi est-ce important? Il est facile de penser que tout va bien se passer jusqu'à la tribulation. Tout va être merveilleux jusqu'au jour où la tribulation commence. Et ensuite, bam! Tout s'écroule, n'est-ce pas? Je ne pense pas que nous le pensions consciemment, mais il est facile de supposer que c'est à ce moment-là que les mauvaises choses commencent à se produire. Mais il est peut-être plus utile et plus réaliste de comprendre que nous verrons au moins le début de l'ouverture des quatre premiers sceaux avant la tribulation. En d'autres termes, nous allons assister à la montée d'un christianisme militant. Nous assisterons à des guerres régionales et peut-être même à un niveau de guerre mondiale avant la grande tribulation. Nous verrons des famines dans le monde entier. Nous verrons la maladie et la mort, peut-être avant la grande tribulation, avant que l'Église ne soit emmenée dans un lieu de sécurité. En d'autres termes, il se peut que nous voyions certaines de ces choses de nos propres yeux. Ce point fut discuté de manière assez approfondie au sein du Conseil des Anciens au cours des dernières années. Il s'agit d'un point technique dans un sens. Quand la grande tribulation commencera-t-elle? Est-ce après la chevauchée des quatre cavaliers? Ou la période de 3 ans et demi de la tribulation comprend-elle l'ouverture des quatre premiers sceaux? Mais si vous comprenez que les sceaux sont successifs, la seule conclusion logique est que la tribulation commence après l'ouverture des quatre premiers sceaux. Cela a du sens. En d'autres termes, nous connaîtrons des temps difficiles. L'apparition du faux prophète sur la scène mondiale entraîne l'apparition d'une bête militante de concert avec le faux prophète, ce qui entraîne l'accumulation d'armées, le début des hostilités et de la guerre. Cela prend du temps. Le résultat de la guerre est la destruction des récoltes, des terres agricoles et des villes, le déplacement des populations, les migrations massives de réfugiés dans des camps, les pénuries de nourriture, les famines. Et cela conduit à des épidémies de maladies. Cela ne se fait pas en un jour ou deux. Cela prend du temps. Le fait est que cela signifie que nous devons être patients et fidèles jusqu'à la fin, parce que nous connaîtrons des temps difficiles. Reportons-nous à Daniel chapitre 12. Daniel 12. Daniel 12, il s'agit d'un passage fascinant qui a beaucoup à voir avec nous. Nous qui vivons dans cette génération, les dernières années avant le retour du Christ. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, le contexte est le temps de la fin. Si vous regardez la fin du chapitre précédent, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Cela correspond à la grande tribulation à la fin des temps. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cela détermine le moment du retour du Christ et de la résurrection des saints. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Cela nous rappelle d'une certaine manière M. Ames. C'était l'une de ses écritures préférées et un des objectifs qu'il voulait atteindre tout au long de sa vie. Verset 3. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On lui a dit, enregistre-le et lâche prise. Tu ne le comprendras pas. Mais, vous savez, frères et sœurs, n'est-il pas encourageant de savoir que si nous vivons à la fin des temps, il y a des choses que nous serons capables de comprendre que même ceux qui les ont écrites n'ont pas comprises. Dieu laissera-t-il la dernière génération qui vit ces temps sans comprendre ce qu'elle traverse? Verset 4. scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous comprenons comment, aujourd'hui, on peut prendre l'avion, voler pendant 10 ou 12 heures et se trouver de l'autre côté de la Terre, ou du moins sur un autre continent, proche de l'autre côté de la Terre. C'est incroyable. Des voyages qui auraient pris des semaines, voire des mois, il y a quelques centaines d'années ou moins. Verset 4. Et la connaissance augmentera. Nous sommes à l'aube de ce que l'on appelle la révolution de l'IA. Alors que nous pensons que les connaissances, les informations et les données augmentaient, attendez un peu. C'est du moins ce qu'on nous dit. À cause de cette révolution de l'IA, nous vivons à une époque très intéressante. Il poursuit dans Daniel 12, verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Nous voyons donc la même période de temps exprimée, 3 ans et demi. En d'autres endroits, on parle de 42 mois ou de 1260 jours. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il s'agit du temps de la tribulation dont nous avons parlé ici. Remarquez dans Daniel 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. La déduction est qu'au moment de la fin, ils seront ouverts pour ceux qui veulent comprendre et qui sont prêts à se soumettre à Dieu, comme nous l'avons entendu dans la sermonnette, dans la crainte de Dieu et à l'adorer et à vivre une vie qui est à sa louange. Verset 9. Ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il dit même que certains seront dans la tribulation. Notre défi est que nous voulons que Dieu nous rende blancs maintenant. Nous voulons nous soumettre à son affinage maintenant, n'est-ce pas? Pour ne pas avoir à passer par un raffinage plus sévère. Daniel 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Il s'agit là d'une indication très claire et très précise de l'imminence de la tribulation. Les sacrifices seront supprimés, l'abomination de la désolation est dressée. Comme on nous l'a enseigné depuis longtemps et comme cette œuvre l'a diffusée et publiée, si les sacrifices sont supprimés, alors ils doivent commencer. C'est donc ce que nous recherchons au Moyen-Orient, surveiller le Moyen-Orient, surveiller Jérusalem et guetter cet événement. Les sacrifices commenceront et lorsqu'ils seront supprimés, il restera 30 jours avant le début de la tribulation et 1290 jours avant le retour du Christ. Lorsque ces choses se produiront, nous serons très proches. Nous serons très proches. C'est assez excitant d'y penser, n'est-ce pas? Remarquez maintenant le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est un langage vraiment intéressant et intriguant. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Herbert Armstrong a écrit, il y a plusieurs années, en 1980. Ne semble pas si loin, mais je suppose qu'il y a environ 45 ans maintenant. Dans la revue La Bonne Nouvelle, éditoriale de janvier 1980, il écrivait ceci de ce temps. De la mise en place de l'abomination de la désolation à la venue du Christ, il y aura 1290 jours. Maintenant, au verset 12, heureux celui qui attend et qui vient jusqu'aux 1335 jours. Jamais auparavant, nous n'avions compris ces périodes de 1260 jours, 1290 jours et 1335 jours. Mais il semble évident qu'une bénédiction est prononcée sur nous, l'Église de Dieu, qui attendons et endurons jusqu'aux 1335 jours, environ 1335 jours avant la venue du Christ. Mais comme personne ne peut connaître le jour ou l'heure de sa venue, nous ne pourrons probablement pas connaître le jour exact où cette période de 1335 jours commencera. Mais apparemment, c'est à ce moment-là que notre travail prendra fin. Ce sera le moment où l'Europe unie apparaîtra, la renaissance du Saint-Empire romain médiéval. Nous serons alors avertis et préparés à être emmenés dans un lieu de refuge et de sécurité pour échapper à la grande tribulation. 45 jours plus tard, les armées de la bête encercleront Jérusalem. 30 jours plus tard, la grande tribulation commencera probablement par une attaque nucléaire sur Londres et la Grande-Bretagne, ou peut-être le même jour ou immédiatement après sur les villes des États-Unis et du Canada. Il est évident qu'il émet beaucoup de conjectures. Nous ne connaissons pas tous les détails et nous ne savons pas si les choses se passeront exactement de cette manière, mais c'est très intéressant. Et il y a plusieurs choses que nous pouvons en tirer. La première est, comme nous l'avons dit, heureux celui qui attendra. Heureux celui qui attendra. Qu'est-ce que cela signifie au verset 12? M. Armstrong disait comprendre cela comme signifiant que les gens qui seront fidèles jusqu'à ce moment-là auraient droit à une bénédiction. Frères et sœurs, cela implique plusieurs choses. La première est que les temps ne seront pas faciles jusqu'à ce moment-là. Il se peut que les choses soient difficiles jusqu'au moment où nous atteindrons les 1335 jours. Mais comme le dit l'Écriture, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. M. Armstrong a aussi déduit qu'au début des 1335 jours, il sentait que l'œuvre serait terminée et que l'Église de Dieu se serait préparée pour aller dans le lieu de sécurité. Il est intéressant de constater que certaines personnes de notre époque croient que la tâche principale de l'Église est de préparer l'épouse, de se préparer elle-même. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'œuvre est terminée maintenant et que nous devons attendre simplement le Christ, que nous devons cesser de prêcher l'Évangile au monde dans un effort concerté par tous les moyens disponibles, et cela inclut les médias, qui sont le moyen le plus efficace de transmettre un message à un public aussi large que possible. M. Armstrong a senti et enseigné qu'une partie de notre préparation pour ce temps où les 1335 jours débuteraient était de faire l'œuvre. Une partie de la préparation de l'épouse consiste à faire l'œuvre aussi longtemps que l'œuvre peut être faite. À un moment donné, les sceaux dont nous avons parlé s'ouvriront, et il ne sera plus possible de faire l'œuvre. Mais, comme il est dit, il y a une bénédiction pour ceux qui l'accomplissent fidèlement jusqu'à ce moment-là. Le livre de l'Apocalypse ne nous laisse pas deviner quand le cheval roux commencera sa course. C'est après le cheval blanc, après l'apparition du faux christianisme militant, qui n'est pas encore apparu dans toute sa force. Le cheval roux commence sa course avant l'ouverture de la grande tribulation. Mais nous pouvons supposer qu'il la précède très rapidement. Permettez-moi de laisser M. Armstrong terminer l'article. Il dit, « Où en sommes-nous maintenant dans le panorama de la prophétie? Nous avons atteint le moment juste avant que les États-Unis d'Europe ne restaurent le Saint-Empire romain sous la papauté dans une union de l'État et l'Église. C'était en 1980. Réfléchissez un instant. Que s'est-il passé au cours des 45 dernières années? Faites une liste de contrôle mental. L'Allemagne s'est réunifiée. L'Union européenne s'est dotée d'une monnaie commune. Il parle et travaille à la mise en place d'une force de défense rapide. La guerre en Ukraine a poussé l'Allemagne à s'engager de plus en plus dans cette voie. La puissance et le prestige des États-Unis ont considérablement diminué. Il s'agit d'une progression lente, mais constante, au cours des 45 dernières années, depuis que M. Armstrong a écrit ces mots. Et nous semblons être sur le point d'y parvenir. S'il pensait que nous étions sur le pas de la porte à l'époque, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il dit, une fois que cette troisième grande puissance mondiale sera formée, notre travail sera bientôt terminé. Cela pourrait se produire dans un an, deux ans ou cinq ans, ou 45 ans. Ce n'est pas ce qu'il disait, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas parce que c'est plus long que c'était inexact. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que cela a pris plus de temps que cela ne se produira pas. Il dit, cela pourrait arriver soudainement, laissant le monde entier stupéfait. Le monde entier est maintenant en feu. Ce n'est pas la grande tribulation, mais c'est certainement un préliminaire, un temps de jeûner et de prier intensément. Frères et sœurs, si 1980 fut une période de jeûne et de prière intensif, qu'en est-il aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes littéralement à la porte de certaines de ces choses. Deux clés donc. L'apparition du cheval roux suit l'apparition du cheval blanc, et l'apparition du cheval roux précède le début de la grande tribulation. Dans le temps qu'il nous reste, tirons quelques enseignements personnels de ce dont nous avons parlé, la chronologie du cheval roux. Comme l'a conclu M. Armstrong, que devons-nous faire maintenant, si nous savons où nous en sommes dans la prophétie? Premier enseignement, nous devons nous approcher de Dieu. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas compliqué, mais premièrement, nous devons nous approcher de Dieu. Reprenons là où M. Armstrong s'est arrêté. Il a dit, il est temps de jeûner et de prier intensément, frères et sœurs. Si cela était vrai il y a 45 ans, et c'était le cas pour ceux dont la vie s'est terminée peu de temps après qu'il ait écrit cela, c'était la fin de leur épreuve. C'était donc urgent pour eux. Franchement, pensez à ce qui s'est passé quelques années plus tard, lorsqu'il est mort et qu'une apostasie à grande échelle s'est produite dans l'Église. Absolument, ce fut une période de jeûne et de prières intensifs. Encore une fois, combien plus aujourd'hui? Pour nous préparer à ce temps, il est temps de se rapprocher de Dieu. Pendant ce temps, dans notre monde occidental moderne et riche, nous pouvons être tellement préoccupés par nous-mêmes, par notre confort et nos besoins, que nous ne réalisons pas qu'il y a un monde qui souffre. En décembre 2024, des rebelles ont pris le contrôle du gouvernement syrien. Lorsque l'on entend parler d'un mouvement militaire comme celui-ci, il est facile d'oublier que lorsque les rebelles entrent dans le pays, cela signifie que les civils fuient pour sauver leur vie. Ils se cachent dans leurs maisons. Les magasins, les commerces, le travail, tout cela est fermé. Il devient trop dangereux de s'aventurer dehors. Trop souvent dans notre monde occidental, nous sommes contrariés de ne pas avoir accès au Wi-Fi. à notre café préféré ou au dernier iPhone que nous attendions. Si nous sommes si préoccupés par notre propre succès ou nos distractions, nous ne sommes peut-être pas aussi proches de Dieu que nous devrions l'être. Si vous êtes jeune, cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'études, que nous ne travaillons pas fort, que nous ne trouvons pas de travail, que nous ne cherchons pas à nous améliorer, que nous n'essayons pas d'aller de l'avant dans la vie. Mais ce que cela signifie, c'est que les soucis de cette vie nous détournent-ils de ce qui est vraiment important lorsque nous sommes au bord du gouffre de ce dont parle Daniel et ce dont parle l'Apocalypse. M. Weston a donné cet exemple il y a quelque temps, dans Jérémie 45, verset 1. Et pour moi, c'est tout simplement puissant. Jérémie 45, verset 1. Il est question de l'exemple de Baruch, je crois. Jérémie 45, verset 1. Verset 1. Baruch était l'assistant, le scribe de Jérémie, quel que soit le titre qu'on lui donne, et qui l'aidait, traversait beaucoup de choses avec Jérémie, côte à côte. Mais il dit, verset 1, la parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérijah, lorsqu'il écrivit dans le livre ses paroles sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch, tu dis malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur, je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. En d'autres termes, pourquoi dois-je être en vie à un moment pareil? Pourquoi ne puis-je pas avoir une belle vie? Pourquoi ne suis-je pas né à une époque plus paisible? Pourquoi ma vie doit-elle être aussi pourrie à cause de ce qui se passe autour de moi? » C'est en quelque sorte ce qu'il disait, verset 4. « Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. » Il dit, « J'élabore un plan. J'ai élevé cette nation et je vais l'abattre. » Tel est le plan. Au verset 5. « Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici je fais venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Quelle belle déclaration! Cherches-tu de grandes choses pour toi-même, Baruch? C'est intéressant. Oui, Dieu l'a corrigé. Mais remarquez qu'il a aussi dit, « Je te donnerai ta vie comme prix. » Je vais prendre soin de toi, Baruch. Mais tu dois comprendre, mettre de l'ordre dans tes priorités, parce que ce n'est pas le moment de chercher de grandes choses pour toi-même. Voilà qui nous parle de notre époque. Dieu a été miséricordieux, doux et aimant envers Baruch. Mais il l'a aussi mis en garde. M. Weston, en s'adressant au Conseil des Anciens au printemps dernier, a fait quelques commentaires en conclusion. Ceux-ci sont tirés de mes notes. Ce n'est pas une transcription exacte. Mais ce dont je me souviens, il a dit, « Comprenons-nous à quel point nous pourrions être proches. Il faut du temps pour construire des armées, mais cela pourrait devenir très mauvais avant la tribulation, comme M. Armstrong avait l'habitude de dire, nous devons être prêts pour le retour de Christ, ce soir. Mais vivre nos vies, il ne va pas revenir ce soir d'ailleurs, juste pour être clair, il y a des choses qui doivent arriver. Mais il fait valoir un point. Vivons notre vie comme s'il ne revenait pas avant de nombreuses années. Comment vivons-nous notre vie? Avec un caractère chrétien et une préoccupation pour les autres. M. Armstrong n'a jamais cessé de construire. Nous devons être prêts et préparer nos membres ce soir. Mais nous ne pouvons pas arrêter de vivre, faire des études, se faire soigner les dents, etc. En d'autres mots, il y a un équilibre. Frères et sœurs, de nombreux membres du peuple de Dieu traversent des épreuves, même pénibles. Dieu nous rend blancs, si nous le voulons bien. Il nous met à l'épreuve, mais nous n'avons pas à nous soucier du lendemain si nous sommes prêts à lui donner notre vie aujourd'hui. Cela me rappelle ce qu'a dit l'un de nos professeurs en l'ambassadeur collège. Si vous prenez soin de votre caractère, Dieu prendra soin de votre peau. Si vous êtes occupé à être juste, de le suivre, de lui soumettre votre vie, il s'occupera du reste. Ce que nous faisons, c'est faire ce qui est demandé de nous aujourd'hui. Puis nous faisons ce qui nous est demandé le jour suivant, le jour suivant et le jour suivant. Et avant que vous vous rendiez compte, le temps de la fin sera achevé et ces événements appartiendront au passé. Nous serons ensemble dans le royaume et nous en parlerons comme d'un souvenir. Deuxième enseignement. Deuxième enseignement, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous savons que l'Église sera protégée pendant la grande tribulation et nous prions pour y être. Nous demandons à Dieu que nous y soyons. Mais qu'en est-il avant? Comme M. Armstrong l'a expliqué, il y a une bénédiction pour ceux qui attendent et parviennent jusqu'à 1335 jours. Matthieu 24, verset 13 dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer. Nous allons connaître des temps difficiles. Nous vivons dans un monde violent, et la situation va empirer avant de s'améliorer. Mais il y a une bénédiction pour ceux qui endurent ces années devant nous. Cette bénédiction, M. Armstrong semblait impliquer, était d'aller au lieu de sécurité. Mais nous devons persévérer afin d'obtenir cette bénédiction. Nous ne pouvons pas simplement espérer le lieu de sécurité et ensuite nous attendre à une navigation tout en douceur d'ici là. Cela signifie-t-il que Dieu ne sera pas avec nous? Absolument pas. Je pense à l'un des rapports que nous avons reçus pendant la fête au sujet de la fête en Haïti, et j'aimerais en lire une partie parce que je pense qu'il donne un contexte intéressant. Il s'agit d'un rapport rédigé par l'un de nos membres en Haïti à l'intention de M. Pierre. Vendredi 18 octobre 2024, le premier jour de la fête, nous avons eu une assistance directe de 26 personnes réunies dans la salle à Pétionville pour l'assemblée du matin. L'assemblée de l'après-midi a vu le nombre de personnes dans la salle passer de 26 à 25. Un délicieux repas a été servi entre les deux assemblées. Alors que nous étions rassemblés paisiblement à Pétionville, attendant avec impatience les festivités, ce qui se passait à Port-au-Prince n'avait rien de réjouissant. Le centre-ville, ce qui reste de la capitale, vivait une journée d'enfer. Des tirs d'armes automatiques lourdes furent entendus dans tous les coins, toute la journée et toute la nuit d'hier. Ils se sont poursuivis toute la journée d'aujourd'hui, empêchant de nombreux membres de l'Église de s'aventurer dans la rue pour participer aux assemblées du deuxième jour dans notre salle habituelle. Pour ceux qui ont pu sortir ce matin, l'ambiance de la fête des tabernacles était encore présente. Le soleil a continué à briller, mais surtout, il faisait chaud dans les rues. Frères et sœurs, pensez à votre fête. Comment s'est-elle déroulée en 2024? Quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés? Quelqu'un s'est-il trompé dans votre commande au restaurant? Ou peut-être avez-vous eu un pneu crevé en chemin? Ou peut-être avez-vous eu un problème de santé? Je ne veux pas prendre à la légère les problèmes que beaucoup d'entre nous ont rencontrés lors de la fête. Mais que diriez-vous de manquer le deuxième jour à cause de combats dans votre ville natale et de ne pas pouvoir sortir de chez vous? Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous aient eu à faire face à cela. Pourtant, les frères d'Haïti ont été confrontés à cela l'année dernière. Mais Dieu les a protégés. Il a pris soin d'eux. Mais ils ont vu des choses très proches de chez eux. Je vais en lire davantage. Il dit 20 octobre. Le troisième jour de la fête des tabernacles 2024 en Haïti s'est bien déroulé pour les membres de l'Église du Vivant réunis à Pétionville. Le climat d'insécurité qui sévit dans la capitale depuis le milieu de la semaine n'a pas ralenti les membres dans leur désir d'être présents pour participer à l'assemblée en direct qui s'est tenue samedi après-midi. Frères et sœurs ont profité de l'occasion de fraterniser et partager un repas ensemble avant le début de l'assemblée sabbatique. L'ambiance fraternelle qui régnait a permis à chacun de vivre un moment agréable et festif. 21 octobre. Les 5e, 6e et 7e jours de la fête des tabernacles en Haïti se sont bien déroulés pour les membres de l'Église, malgré la recrudescence du climat d'insécurité à Port-au-Prince, dans ses environs immédiats et dans plusieurs autres villes de province qui ont connu une période difficile durant ces jours. Les membres étaient très satisfaits du déroulement de la fête et très reconnaissants à Dieu pour sa protection en ces temps troublés. Le temps est resté beau jusqu'à la fin et l'ambiance était à la joie et à la reconnaissance. Il est remarquable que nous puissions être heureux avec si peu et rester positifs alors que tout semble s'effondrer autour de nous. C'est une expérience vraiment exceptionnelle. Frères et sœurs, c'était la fête de vos frères et de mes frères cette année. Pas dans le futur, mais cette année. Je pense que c'est instructif pour nous tous, car nous vivons encore dans une période de paix relative, n'est-ce pas? Pourtant, beaucoup de nos frères, dans les pays du monde entier, vivent déjà des situations très, très difficiles. Les frères du Venezuela n'ont pas pu voyager en raison des troubles et des problèmes liés à l'obtention d'un passeport, etc. L'été dernier, des frères du Myanmar ont dû fuir à cause de la guerre civile qui sévit dans leur pays. Nous avons des frères à Cuba qui sont confrontés à des difficultés extrêmes en raison du manque de nourriture. L'Église a trouvé des moyens d'engager des personnes pour leur apporter de la nourriture, mais c'est grave. Le fait est que nous devrons tous persévérer et que nous serons mis à l'épreuve en cours de route. David a écrit dans Psaume 34, verset 20, Psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il est peut-être important que nous comprenions que les temps pourraient devenir plus difficiles avant que nous n'allions dans le lieu de sécurité. Mais Dieu prend déjà soin de ses frères dans le monde entier. Sont confrontés à certaines de ces choses. Il se peut même que nous soyons persécutés pour la vérité. Les Écritures disent que cela arrivera. Mais il y a une grande différence entre être persécuté pour la vérité avant la tribulation et passer par la tribulation. M. Wyatt Cecilka a donné un sermon il y a quelques années, un sermon très, très utile et encourageant. La foi est le lieu de sécurité. Parle de ce même sujet. Je vous le recommande vivement. M. Cecilka, 21 décembre 2013, sur notre site EDV, dans l'onglet des sermons, la foi est le lieu de sécurité. Parlons de notre troisième enseignement. Troisième enseignement à retenir. Nous devons faire l'œuvre. Nous devons faire l'œuvre. Que faisons-nous pour tenir le coup? Nous faisons face à ce qui nous attend avec courage, espoir et foi, et nous continuons à faire l'œuvre. Reportons-nous à Matthieu 24. Comme M. Armstrong le disait, il pensait que le marqueur de 1335 jours serait le moment où l'œuvre prendrait fin. Matthieu 24. C'est une conjecture, mais c'est sa meilleure hypothèse. Reportons-nous à Matthieu 24, versets 13 et 14, où il est dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Une grande partie de notre préparation pour ce temps et de notre croissance spirituelle, comme M. Armstrong avait l'habitude de l'expliquer, est de faire partie de l'œuvre. Il s'agit de donner notre vie pour nos frères dans le monde qui ont besoin de ce message. C'est pourquoi nous faisons l'œuvre aujourd'hui. Nous avons tous un rôle à jouer. Chaque membre de l'Église a un rôle à jouer dans l'œuvre, pas seulement ceux qui écrivent les articles, enregistre les émissions télévisées, ou font des sermons dans les églises locales. Chaque personne dans l'église aujourd'hui fait partie de l'œuvre. Ceux qui font l'œuvre et qui sont occupés à travailler seront bénis lorsque le Christ reviendra. Remarquez dans Matthieu 24, versets 45 et 47, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » En d'autres termes, nous faisons l'œuvre jusqu'à ce que nous ne puissions plus la faire. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Verset 47. Je vous le dis en vérité, et il l'établira sur tous ses biens. Donc, le cheval roux a-t-il commencé sa course? Pas encore. Pour résumer la dernière heure, la réponse est non. Mais les conditions sont certainement en train de se mettre en place, et les conditions sont en train de se mettre en place pour que les seaux s'ouvrent un par un, dans un ordre successif. Quelles sont les clés pour connaître le moment opportun? Premièrement, l'apparition du cheval roux suit l'apparition du cheval blanc. Ce n'est pas difficile à comprendre. Deuxièmement, l'apparition du cheval roux précédera le début de la grande tribulation. Frères et sœurs, même si nous entrons dans les temps qui mènent à la grande tribulation, Dieu veille sur ceux qu'il peut bénir, qu'il veut bénir, qui font l'œuvre, qui persévèrent jusqu'à la fin et qui s'approchent de lui chaque jour, simplement en vivant la vie que nous sommes censés vivre jour après jour. Nous ne devons donc pas avoir peur de l'avenir. Dieu nous a donné la compréhension de l'avenir et la manière de nous y préparer, y compris la compréhension de la prophétie du cheval roux de l'Apocalypse.